L'entreprise a été créée en 1889, elle a donc une riche histoire. Et il faut vraiment des historiens passionnés pour nous la restituer avec rigueur et passion. Pour nous initier à la saga Nintendo, nous avons la chance de recevoir par satellite Florent Gorge, traducteur, youtubeur, auteur de l'histoire de Nintendo en 4 tomes, gérant de l'éditeur Omake Books et professeur des écoles dans Les Oubliés de la Play Histoire sur Feu, la chaîne No Life.
CPU, carré et petit utile.
Alors, quel a été ton premier souvenir sur Nintendo ?
Ça remonte assez loin. Je pense que ça remonte à mon 5e anniversaire. Pour mes 5 ans, j'ai reçu de la part de mes parents un jeu électronique qui s'appelait Parachute. Et avec le recul, après, quelques années plus tard, quand je l'ai retrouvé dans une vieille caisse, et ben, il s'avérait que c'était un Game & Watch. Donc c'est là que j'ai pris conscience que déjà à 5 ans, je jouais avec des jeux Nintendo. Donc voilà, le premier jeu électronique que j'ai eu, c'était déjà un Nintendo.
Pour toi qui écris et publie des ouvrages sur l'histoire des jeux vidéo, qu'est-ce qui fait de Nintendo une compagnie à part dans ce secteur ?
Ben, c'est d'un point de vue historique la plus vieille encore en activité. Hein. Elle a été fondée en 1889, donc ça fait aujourd'hui plus de 130 ans. Et elle a une histoire complètement différente de toutes les sociétés qui, évidemment, sont nées à la fin des années 70, voire au milieu des années 80, puisqu'elle avait déjà, avant l'arrivée de l'électronique et même de l'électricité, un passif d'un point de vue ludique, puisque déjà Nintendo faisait des jeux à cette époque, dès ses origines.
L'histoire de Nintendo est donc étalée sur plus d'un siècle. Ils ont commencé avec les cartes à jouer, ils ont aussi une compagnie de taxi. On va se concentrer sur, à partir des années 70, où Nintendo est déjà présent dans le jeu d'arcade mécanique et invente le pistolet optique. C'est un dispositif assez génial et simple conception. C'est un peu la marque de l'entreprise.
Ouais, alors le pistolet optoélectronique, c'était d'abord un jouet avant de devenir une installation, on va dire, d'arcade. Mm-hmm. Donc c'est une idée qui vient effectivement de la R&D1 de Nintendo, qui était chapeautée à l'époque par un monsieur qui s'appelait Gunpei Yokoi. Et donc il a eu une idée géniale, en fait, c'était d'utiliser des composants que tout le monde connaissait, qui étaient déjà produits en masse, et de les réutiliser en repensant leurs fonctionnalités. Donc en fait, il y a un représentant de la société Sharp qui s'est pointé un jour chez Nintendo et qui a présenté une cellule photovoltaïque. Vous savez, c'était ces cellules qu'on utilisait dans les ascenseurs quand on passait la main devant, ça permettait d'ouvrir ou de fermer la porte. Et ils voulaient leur vendre ce composant électronique qui était déjà très très courant et pas cher. Et ils ont réfléchi, on va dire, à une utilisation un petit peu différente de d'habitude. Et là, ils ont eu l'idée d'implémenter cette petite cellule photovoltaïque dans des cibles. Et ensuite, dans les revolvers, dans les flingues, on pouvait y mettre des stroboscopes. Et dès que la cible détectait le flash stroboscopique, eh bien, ça déclenchait un mécanisme électronique, donc une réaction physique, on va dire. Et c'était assez génial. Et le jeu a eu tellement de succès que Nintendo s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas décliner ça à grandeur nature, à échelle humaine, et plutôt que dans des petits jouets? Et ils ont eu l'idée, on va dire, de réutiliser les salles de bowling qui commençaient à être complètement désertées à cette époque au Japon, pour faire des simulateurs géants de ball trap, mais électroniques.
Durant les années 70, Nintendo fait des jouets en plastique, co-développe avec Magnavox la première console de jeu familial, s'intéresse aux bornes d'arcade, lance les Game & Watch. Pourquoi Nintendo s'est surtout intéressé aux jeux et n'a pas, par exemple, tenté de se lancer dans construire des ordinateurs familiaux ou professionnels ?
Alors, le développement avec Magnavox, il faut juste revenir sur un petit détail. Ils n'ont pas développé la Magnavox, ils ont aidé au développement d'un accessoire. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça permet quand même effectivement de dire que Nintendo avait déjà un pied dans l'industrie du jeu vidéo dès ses origines. Donc ça, c'est quand même effectivement très important. Pourquoi Nintendo ne pense pas tout de suite dans l'ordinateur familial ou dans les consoles de jeux? Il faudra attendre effectivement 5-6 ans de plus. Bah, c'est tout simplement que Nintendo, c'est un fabricant de jouets. Alors certes, ils utilisent de l'électronique, mais c'est l'électronique qui est, entre guillemets, familiale. C'est de l'électronique à destination des enfants. Donc ils essayent de créer des jouets qui sont suffisamment robustes et qui, d'un point de vue électronique, sont malgré tout assez basiques, standards. Et évidemment, les ordinateurs ou les consoles à cette époque, c'est non seulement très coûteux en termes de recherche et développement, et surtout, c'est pas destiné aux enfants, les ordinateurs encore moins. Donc effectivement, il faudra attendre que l'électronique grand public se développe encore plus et que les premières consoles aient fait leurs preuves pour que Nintendo se dise bon, ok, on va se lancer dans l'électronique complexe, on va dire, mais à destination des foyers.
Arrive en 83 la Famicom qui va devenir en 85 la NES aux États-Unis et en Europe. Elle est arrivée après le crash du jeu vidéo, d'ailleurs, justement sur ces marchés-là. Elle marquera la fin de la domination américaine du jeu vidéo et inaugurera l'ère où les Japonais vont se battre dessus. C'est un coup de poker ou c'est une stratégie mûrement réfléchie ?
Il n'y a aucune stratégie là-dedans, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que Nintendo a eu le culot d'arriver alors que le jeu vidéo était en train de s'écrouler. Ça, c'est la perception américaine de l'histoire du jeu vidéo, parce qu'en réalité, ce fameux crash dont vous parlez, il a eu lieu qu'aux États-Unis. En Europe et au Japon, il n'y a absolument aucun crash. Tout va très très bien au Japon. Et en fait, la Famicom, elle a absolument pas calculé le coup en disant on va arriver juste après Atari quand ils se sont viandés. Pas du tout, en fait, ils arrivent tout simplement parce qu'ils se disent qu'il y a un marché à prendre, qu'il y a peut-être une place à prendre, et effectivement, la chance a voulu qu'ils arrivent au moment où Atari était en train de sombrer, mais c'était pas du tout calculé. Donc c'est pas non plus un coup de poker, c'est un coup de chance, je pense.
La NES et la Famicom sont devenues iconiques. Si je me trompe, la Famicom a été produite par Nintendo jusqu'en 2003, et je parle uniquement des versions officielles, soit 20 ans de production officielle. Je ne suis pas sûr d'avoir vu une autre console durer autant. Qu'est-ce qui a fait durer autant cette console ? Est-ce la nostalgie ou le prix devenu modique de ces jeux et de l'électronique ?
Ben, en réalité, la NES, enfin la Famicom au Japon, a effectivement une vie absolument... extraordinaire, hein. 20 ans de production, je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo et je pense que c'est pas prêt de revenir. Elle était toujours populaire parce que, pour les Japonais du moins, c'est la naissance du jeu vidéo moderne et elle a marqué tellement plusieurs générations que même si d'autres machines lui ont succédé, comme la Super Nintendo, la N64, etc., il y avait toujours un public pour cette machine, parce que les jeux d'occasion... En fait, elle a dominé tellement le marché du jeu vidéo au Japon que quand on allait dans les magasins d'occasion, on ne trouvait quasiment à 90% que des jeux Famicom. Et en ce sens, le marché de l'occasion était tellement développé qu'il y avait toujours une demande pour les Famicom. Donc c'est vrai qu'elle a été produite pendant très longtemps, et effectivement pendant 20 ans. Et si ensuite Nintendo a ressenti le besoin de sortir les NES Mini, eh bien figure-toi que c'est une initiative française. C'est un studio qui appartient à Nintendo mais qui est localisé en France, qui a eu l'idée de ce projet et Nintendo a trouvé que l'idée était bonne. Et ça tombait parfaitement bien parce que Nintendo était à une période où ils étaient au plus bas de leur santé, on va dire. La Wii U ne marchait pas du tout et ils avaient besoin de faire rentrer un petit peu de sous, on va dire, avant l'arrivée de la Switch. Et ils se sont dit que c'était peut-être une bonne idée de jouer sur le capital sympathie de la marque et sur la génération de la NES qui devenait parent et qui avait peut-être envie de transmettre à ses enfants tout un savoir et tout un pan de la culture, et ça a cartonné, comme tu l'as dit.
Et on reparlera justement de ce studio de conception français tout à l'heure en troisième partie. Nintendo a parfois des loupés, donc tu as donné justement l'un de ces loupés, la Wii U. Il y a eu d'autres consoles auparavant sur lesquelles ils n'ont pas très bien réussi. Ils ont aussi carrément manqué des occasions énormes comme la PC Engine portée par le studio de développement Hudson ou la PlayStation de Sony. Il y a d'autres loupés qui sont assez monumentaux derrière, qui te viennent à l'esprit ?
Alors, je suis pas certain qu'il y ait eu des loupés avec la PC Engine, parce qu'en réalité, la PC Engine s'est fait ultra dominée par la Famicom, quand bien même elle a pas trop mal marché. Donc, à ce niveau-là, on peut pas dire qu'il y a eu un loupé. Mais oui, il y a eu d'autres. Nintendo n'a pas eu que des succès. On pense évidemment au Virtual Boy en 1995, qui a été un échec total. 700 ou 800 000 machines seulement vendues. Bon, 700 ou 800 000, pour beaucoup de sociétés, ce serait déjà un succès, mais effectivement, dans le cadre de Nintendo, c'est quand même un échec cuisant, oui.
Et puis, elle faisait un petit peu mal aux yeux aussi, celle-là, la Virtual Boy.
Détrompe-toi, en réalité, le Virtual Boy est très très bon pour les yeux. Ça, c'est quelque chose qu'on entend dire partout, parce que c'est vrai que quand tu l'essayes une première fois, tu dis « oh là là, ça arrache les yeux ». Mais en réalité, c'est très bon pour les yeux parce que ça muscle des nerfs optiques qui sont assez peu sollicités au quotidien. Et en réalité, la plupart des développeurs qui travaillaient sur cette machine et qui portaient des lunettes, après quelques mois d'utilisation intensive du Virtual Boy, et je ne te mens pas, j'ai les témoignages pour le prouver de développeurs de l'époque, eh bien, ils n'avaient plus besoin de lunettes. parce que justement le Virtual Boy leur faisait travailler des nerfs optiques fatigués, ça les muscle, et on va dire le mal que tu ressens aux yeux peut-être après, c'est l'équivalent des courbatures pour les muscles du corps humain.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Florent Gorge, historien vidéoludique, pour parler de Nintendo. Dans le secteur du jeu, Nintendo ne semble produire que des contenus qui sont finalement très sages. Je dis d'ailleurs dans l'intro, de 7 ans à 77 ans. Est-il possible pour un éditeur tiers de faire du show sur la plateforme de Nintendo ?
Du show, tu entends par là de l'érotique ou ce genre de choses ?
Ou du gore, ou voire du politique.
Alors, il fut un temps où c'était interdit, il y avait une ligne éditoriale assez stricte, parce que, comme le nom de la Famicom l'indique, Famicom, c'est la contraction de Family Computer, et Nintendo voulait et tenait absolument à ce que sur sa machine, il y ait un minimum de contrôle et que ça parte pas effectivement en vrille comme ça a pu l'être à l'époque sur certaines machines américaines où il n'y avait pas de contrôle. Et donc Nintendo met en place une charte éditoriale qui empêche un certain nombre de dérives, et notamment la vulgarité, le sexe, la violence gratuite, hein, j'entends, sur sa machine. Donc non, à partir du moment où on veut développer sur une console Nintendo, on doit signer un contrat qui stipule qu'effectivement on a certaines limites à ne pas franchir. Alors évidemment, ces limites, elles se sont un petit peu assouplies avec le temps, mais ça concerne pas que Nintendo, mais sur les consoles d'une manière générale, il y a un contrôle notamment sur tout ce qui est sexe et racisme, ou enfin voilà, tout ce qui peut être contraire à la loi. Voilà.
En même temps, Nintendo a été l'un des premiers fabricants de consoles de jeux vidéo à appliquer à fond le principe de verrou logiciel pour empêcher la contrefaçon et d'autres choses. Ouais. C'est ce qui les a maintenus en bonne santé et avoir justement une ludothèque bien tenue et plutôt cohérente.
Ouais. Ah mais complètement, tu as tout à fait raison dans le sens où Nintendo tenait à évidemment avoir la main mise sur sa machine, ce qui est à peu près normal, hein, parce que on s'en rend pas compte, mais quand il y a un problème avec un logiciel, par exemple n'importe lequel, mais Konami ou Capcom, c'est bête à dire, mais le public, les parents, les enfants, quand ils ont une plainte, ils viennent se plaindre à Nintendo, parce que c'est bête, mais pour eux, ça tourne sur la console Nintendo, donc le service après-vente, c'est chez Nintendo. Donc pour éviter les problèmes, pour éviter ce genre de choses, il fallait évidemment protéger la machine pour éviter le maximum de dérives. Alors il y a eu pas mal de soucis vis-à-vis de ça, parce que les règles imposées par Nintendo étaient un petit peu tyranniques, et il y a eu pas mal de procès, notamment aux États-Unis, où les lois antitrust étaient beaucoup plus fortes qu'au Japon. Mais malgré tout, c'est effectivement ce qui a permis à Nintendo d'éviter quand même pas mal de déboires, et puis surtout, c'était l'assurance pour les parents que les enfants jouaient pas à n'importe quoi, et qu'ils allaient avoir un minimum d'assurance en laissant leurs enfants derrière la machine, et qu'il n'y avait pas de dérive possible.
D'un autre côté, beaucoup de produits Nintendo jouent le marketing sur la santé, la Wii Balance Board, la Ring Fit Adventure sur Switch, le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Pour Nintendo, y a-t-il une volonté sincère de promouvoir sport et santé, ou est-ce simplement une niche marketing ?
Nintendo l'a toujours fait, ça. C'est ça qui est amusant, c'est que même avant les jeux vidéo, Nintendo proposait des jouets qui étaient marketés comme des outils de mise en forme, de bien-être, etc. Je prends un exemple tout bête, hein, mais par exemple, vous connaissez tous le jeu Twister, un jeu qui joue sur un tapis avec des couleurs, et puis les gens se chevauchent les uns sur les autres. C'est un jeu, on va dire, pour adolescents qui ont envie de fricoter doucement. Mais au Japon, ce jeu-là est sorti. Mais comme les Japonais sont des gens très pudiques, en réalité, ils l'ont vendu comme un jouet d'aérobic pour s'assouplir, pour la remise en forme, et ça a très bien marché, en fait. Grâce à ça, ça a plutôt pas mal marché, vous voyez. Donc, Nintendo faisait déjà, avant les jeux vidéo, des choses qui permettaient de toucher tous les publics, et notamment les grands-parents qui veulent faire un peu de gym pour se maintenir en forme, les mamans qui veulent éventuellement perdre 1 ou 2 kilos, parce que voilà, les enfants, ils jouent en extérieur. Évidemment, avec les tapis de gym qu'on avait sur la NES, on pouvait évidemment courir et jouer exactement comme Ring Fit aujourd'hui. Enfin voilà, ça a toujours été le cas chez Nintendo. Ils l'ont toujours fait, sauf peut-être pendant la période Super Famicom Nintendo 64, qui est une période un peu à part dans l'histoire de Nintendo, où ils se sont un peu perdus dans une course technologique qui était perdu d'avance.
En me plongeant dans l'histoire de Nintendo, ce qui a d'absolument stupéfiant, c'est que c'est la première marque de console de jeux vidéo à autant pratiquer le club d'utilisateurs, le retour vis-à-vis de la clientèle et tout ça. C'est qu'une impression où c'est plus dans l'ADN de l'entreprise, voire des sociétés japonaises.
Alors, pas du tout. En fait, ce dont tu parles, ça vaut surtout pour les États-Unis et pour l'Europe, parce qu'au Japon, le club Nintendo, tout ça, ça n'existe absolument pas. Nintendo n'en a pas du tout besoin. Mm-hmm. Et donc, à partir du moment où tu domines outrageusement un marché, t'as pas besoin de faire de la fidélisation, puisque tu l'as déjà ton public. Or, le Japon, effectivement, était tout acquis à la cause de Nintendo, donc ils n'ont pas eu besoin de faire des efforts en termes de communication davantage que ce qu'ils faisaient déjà. Par contre, c'était pas le cas en Europe, où effectivement Sega, qui avait pas du tout réussi son pari au Japon, s'était dit il va falloir qu'on mette plus les moyens en Europe. Et donc Sega s'était employé à faire une communication très agressive et a permis, on va dire, de réaliser un bon départ, ce qu'ils n'avaient pas fait au Japon. Et pour que Nintendo finalement réussisse le même coup qu'au Japon, il a fallu qu'ils se sortent les doigts des fesses, pour parler un peu vulgairement, et qu'ils proposent des services en plus pour fidéliser et attirer le client. Et c'est là qu'on a pu effectivement voir apparaître un certain nombre de choses, comme le Club Nintendo en France, où il y avait un mini-magazine qui était offert tous les trimestres aux membres du club, et c'était gratuit. Et ça, c'était, par exemple, aux États-Unis, le magazine officiel, il était payant. Alors, pourquoi il était gratuit en France? C'est simple, c'est parce que, en réalité, comme Sega était très agressif, si Nintendo avait fait payer son magazine de pub, comme c'était le cas aux États-Unis, vous pouvez être sûr que derrière, Sega l'aurait fait gratuit. Et donc, Nintendo aurait été obligé de s'aligner. Donc, pour éviter de se faire prendre la place tout de suite, Nintendo était obligé de mettre en place ce service gratuit. Voilà. Donc, quand on n'est pas en position de trust et de monopole absolu, on est obligé d'offrir du service. C'est en ça que la concurrence est saine.
Quelle a été la plus grande innovation de Nintendo dans le jeu vidéo? La jouabilité de ses titres ou la croix directionnelle sur la manette?
C'est impossible de répondre à ça facilement, parce que des innovations au cours des 20 ou 30 dernières années, il y en a eu tellement, et évidemment on en doit beaucoup à Nintendo, mais pas que. Évidemment, la croix multidirectionnelle, c'est une des inventions les plus géniales de Nintendo. Après, en termes de game design, les innovations apportées dans certains titres Nintendo qui ont ensuite été repris partout sont nombreuses. Enfin, l'utilisation par exemple du trigger pour loquer un ennemi et tourner autour dans The Legend of Zelda, ça c'est une innovation de game design qui est fantastique et qui a été reprise partout, quoi. Donc c'est difficile d'en trouver qu'un seul. Je pense que si on devait résumer assez facilement, la plus grosse innovation de Nintendo, c'est la maxime proférée par la philosophie de création de Gunpei Yokoi, la pensée latérale des technologies désuètes. Cette pensée latérale des technologies désuètes, elle a permis à Nintendo d'inventer un grand nombre de machines et de consoles et de jouets. En gros, c'est utiliser des composants électroniques que tout le monde connaît, qui valent plus rien, mais de les repenser totalement latéralement pour en faire quelque chose de tout à fait nouveau. Et ça, c'est peut-être le truc le plus génial chez Nintendo.
Et justement, donc la pensée latérale et technologie désuète, on en a parlé avec les Game & Watch qui utilisaient les écrans LCD finalement de calculatrice, la Wiimote qui utilisait deux diodes infrarouges et une caméra IR. Les Nintendo Labo avec les objets en carton, c'est dans le même délire, c'est dans le même trip, ou c'est dans une idée de partir peut-être quelque chose qui soit plus côté maker?
Quand on prend le cas spécifique, effectivement, des jeux avec l'utilisation d'accessoires en carton à monter soi-même, on est parfaitement dans l'ADN de Nintendo au fil des 130 ans. C'est-à-dire que Nintendo a toujours prôné le jeu pour tous avec un échange familial. Il n'y a pas plus casual qu'un jeu de cartes, il n'y a pas plus casual qu'un jeu de société. Et Nintendo a fait ça pendant 130 ans. Donc, et il continue de faire des jeux de cartes d'ailleurs. De la même manière qu'il y a eu la Family Computer, qui était donc un ordinateur, bon, évidemment, le terme ordinateur est mal choisi avec le recul, mais bon, c'était les pratiques de l'époque, ça reste du jeu pour tous, familial, et effectivement, tout ce que Nintendo fait, dans la plupart du temps, bien sûr, c'est du jeu vidéo pour tous, qui s'intéresse aux enfants, mais aussi la pratique du jeu accompagnée par les parents.
On parlait de la NES tout à l'heure, tu disais c'est pas vraiment un ordinateur. Moi j'ai vu pas mal de clones quand même de NES ou de Famicom qui étaient transformés en ordinateur. D'ailleurs en Chine, ces clones étaient avec des claviers, si je me trompe.
Ah oui, sur Famicom aussi, il y a tout de suite eu dès le début du projet l'intention de mettre un clavier parce que le terme ordinateur était le seul qui existait en réalité au Japon. Il n'y avait pas de terme pour parler de console. Et même moi, je me souviens parfaitement quand mon premier meilleur ami m'a dit j'ai un ordinateur à la maison, on m'a offert un ordinateur à Noël. Et c'était une Atari 2600, mais le mot console n'existait pas pour les enfants. Mmh. C'était un ordinateur, certes uniquement ludique, mais c'était un ordinateur. Donc le terme computer aujourd'hui, il nous fait rigoler parce que c'est vrai que c'est pas à proprement parler l'utilisation qu'on a en tête d'un ordinateur, mais c'était une console de jeu qui évidemment avec un terme qui n'existait pas à l'époque.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Florent Gorge, auteur et éditeur à propos d'histoire de jeux vidéo, pour parler de la société Nintendo. Est-ce que Nintendo est une entreprise qui conserve bien ses archives, et sont-elles facilement accessibles à des personnes comme toi ?
Pas du tout. Non, en fait, ça vaut pour tous les fabricants japonais du jeu vidéo. Il y a un vrai problème d'archivage dans ce pays. En même temps, c'est pas forcément mieux chez nous non plus. Mais bref, le jeu vidéo a pendant trop longtemps été considéré comme simplement, et même par les fabricants, comme des produits de consommation de masse. Et donc, les archives en tant que telles, ça les intéressait pas vraiment. Ils développaient un produit, hop, ils se vendaient, et puis il fallait passer au suivant, puis comme il faut faire un peu de place, bon bah hop, on balance tout ce qu'on avait. Donc il y a énormément de documents qui ont été perdus, évidemment, et donc les archives de Nintendo, il y en a, hein, bien sûr, mais elles sont totalement inaccessibles. Et on sait qu'effectivement, le travail d'archivage n'a commencé que très très récemment, dès lors que Nintendo s'est dit « Ah mais au fait, on a un patrimoine qui est intéressant, et il y a des gens qui s'intéressent à ce patrimoine ». Et donc, à partir des années DS, quand Nintendo a vraiment commencé, même le GBA peut-être, a commencé à vouloir réutiliser les vieilles licences et faire des hommages, avec notamment les NES Mini et Famicom Mini de la génération Game Boy Advance, et ben, à ce moment-là, ils se sont dit, tiens, on n'a plus rien. Et peut-être qu'il serait bon de garder nos documents, parce qu'on n'a pas grand-chose aujourd'hui pour travailler sur ces projets-là, quoi. Donc voilà, c'est assez récent, ça a été très mal fait malheureusement, mais c'est en train de bouger fort heureusement.
Et d'ailleurs, comment sont vus tes travaux historiques ? Parce que tu fais une recherche qui est monstrueuse. L'animation qu'il y a d'ailleurs sur ta chaîne vidéo YouTube, je pense qu'elle rend bien hommage à tout le travail documentaire que tu fais et de fouilles archéologiques. Est-ce que tes travaux sont traduits en anglais ou en japonais ?
Alors, ils sont traduits en plusieurs langues, effectivement. Donc en anglais pour certains, en espagnol, en russe aussi, et puis... en italien, mais pas en japonais, parce qu'en japonais c'est un peu plus compliqué, le marché japonais est très très complexe, et puis parce que ils ont effectivement des pratiques éditoriales qui sont assez différentes. Donc au final non, c'est pas traduit en japonais. Je l'ai traduit en japonais à l'époque pour le faire relire par Nintendo et puis etc. Mais après, ce que Nintendo pense de mon travail, absolument rien d'officiel. Nintendo ne peut évidemment pas se prononcer sur ce genre de travaux. Parce que s'ils se prononcent officiellement, clairement, ils vont être obligés de dire d'arrêter. Il y a effectivement une zone grise à ce niveau-là. À partir du moment où on utilise des visuels qui leur appartiennent, c'est de toute façon la zone grise. Mais en termes de recherche historique, là encore, ils ne peuvent pas se prononcer, parce que s'ils se prononcent dessus, ça devient un historique officiel, et ils ne veulent pas ça. Ils veulent garder un contrôle total de leur image. Et de mon côté, moi non plus, je ne veux pas avoir un label officiel, parce que je sais déjà que la moitié des informations dans mes bouquins seraient supprimées, pour plein de raisons. C'est une pratique japonaise qui fait que il vaut mieux pas être officiel quand on est au Japon, parce que souvent on est contraint à supprimer plein d'infos intéressantes qui a priori ne posent pas de problème, mais simplement on n'a pas le droit de citer telle ou telle personne parce qu'il faut lui demander l'autorisation de le citer, parce que c'est très complexe de travailler à ce niveau-là avec les Japonais.
Gaijin, ça aide ?
Non, enfin... Ça dépend. Être gaijin, comme tu dis, c'est à double tranchant. Pour certaines interviews, effectivement, t'as des développeurs qui se lâchent en se disant, bah de toute façon, l'interview, elle sera pas lue par les Japonais, donc je peux y aller. Et puis d'un autre côté, il y a des développeurs qui se disent, je sais pas comment mon interview va être utilisée. J'aurai pas le contrôle du truc une fois que j'aurai parlé, et ils ont peur de ça aussi. Parce que c'est vrai qu'au Japon, il faut savoir que la presse, avant de publier, ils font tout relire et ils font tout valider. Les tests de jeux vidéo en tant que tels, au Japon, n'ont jamais existé. À chaque fois qu'ils écrivent une petite critique, Nintendo, Konami, Capcom relisaient, corrigeaient, modifiaient. Et il n'y a absolument aucune liberté de la presse à ce niveau-là, ce qui est totalement impensable chez nous. Et c'est pareil pour les interviews. Quand on fait une interview d'un développeur et qu'on travaille avec les Japonais, il faut d'abord la traduire, tout faire relire. La plupart du temps, ils en enlèvent la moitié. Et ce qui reste, c'est totalement insipide. Donc, nous, comme on n'a pas ces pratiques-là, les Japonais le savent, il y a beaucoup de développeurs japonais qui refusent aujourd'hui de donner des interviews si on ne leur fait pas relire, si on ne leur laisse pas la liberté d'enlever la moitié de ce qu'ils ont dit au final parce qu'ils se rendent compte que ça peut être ennuyeux, ou etc. Donc, à ce niveau-là, non, c'est pas forcément un avantage parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui se disent « Bon, bah non, je préfère pas répondre aux étrangers, je sais pas si ça va être bien traduit, je sais pas si ça va être utilisé, je sais pas si j'aurai un droit de regard après. » Et donc, ils préfèrent dire non tout de suite.
Nintendo a une très discrète filiale de développement en France. Tu en as parlé tout à l'heure rapidement à propos de la Mini NES. Qui est-elle et sur quoi d'autre travaille-t-elle ?
Ah, je suis pas dans le secret des dieux. Alors, quand on parle de filiale, en fait, c'est surtout un bureau de recherche et développement qui appartient effectivement en majeure partie à Nintendo. Ben, ils travaillent, ils font de la recherche et développement, mais je sais pas sur quoi ils travaillent en ce moment, pas du tout. Mais ils travaillent certainement sur des prototypes de choses, enfin voilà, certainement de l'interface, peut-être du hardware, impossible de le savoir. Mais c'est vrai que ce studio qui s'appelle Nerd est un bureau de recherche et développement, et c'est eux qui ont suggéré à Nintendo de sortir la NES Mini. Ils avaient développé un émulateur assez performant et Nintendo l'a trouvé intéressant, et je pense que c'est à partir de là que le projet est parti.
Nintendo, depuis l'arrivée de la Famicom et des Game Boy, a toujours eu deux lignées principales de jeux électroniques, les consoles de salon et les consoles portables. Est-ce que la Switch sera l'unification des deux games, des deux gammes?
Bah, bonne question. Je pense que là, dans l'état actuel des choses, la gamme, entre guillemets, portable est morte, mais la gamme, on va dire, domestique, console de salon est morte aussi. C'est vrai qu'ils ont réussi à trouver un bon compromis. On peut se dire c'est quand même idiot parce que Nintendo vendait deux machines autrefois et aujourd'hui ils en vendent plus qu'une seule. Peut-être. Néanmoins, Nintendo fait aussi énormément d'économies d'échelle parce qu'avant ils avaient des équipes qui étaient dévouées, on va dire, aux jeux sur portable et des équipes sur les consoles de salon. Et bien maintenant, ils ont réuni toutes ces équipes qui travaillent finalement sur deux fois plus de projets. Donc, ils arrivent à faire finalement des économies d'échelle en termes de développement, de services après-vente aussi. Enfin, je pense que Nintendo s'y retrouve, mais de toute façon, ils avaient besoin d'innover par rapport à Sony qui avait une telle puissance de frappe avec la PlayStation 4, que la Wii U était complètement larguée et qu'ils voyaient bien que le smartphone était aussi en train de prendre la relève sur le marché du portable. Et Nintendo s'est creusé les méninges et a trouvé peut-être une solution et avec un succès auquel il ne s'attendait pas. Mais moi, personnellement, oui, je pense que les deux gammes séparées, c'est de l'histoire ancienne.
Nintendo, d'un autre côté, justement, tu parlais de consoles de jeux, ils sont associés avec une filiale de Google pour faire des jeux, sur smartphone. C'était de la franchisation de jeux vidéo, ce n'était pas arrivé depuis la CDI de Philips. Oui, là, je remue les vieux dossiers, je sais ce qui pue. Est-ce que toi, tu verrais Nintendo devenir comme Sega, une entreprise qui ne fasse plus de matériel, qui ne fasse plus que du logiciel et de la licence pour d'autres plateformes?
C'est difficile à dire. Il faudrait être devin pour parier sur cette question. On voit une chose, c'est qu'effectivement, Nintendo est en train de diversifier son activité. C'est-à-dire qu'ils ont enfin pris conscience qu'ils avaient un patrimoine culturel et surtout pop culturel, et donc ils commencent à ouvrir des boutiques physiques où ils vendent des millions et des milliards de goodies. Nintendo s'est aussi ouvert enfin au parc d'attractions, alors que ça fait à peu près 25 ans que le potentiel est là. Quand tu vois le potentiel avec un Mario Kart, tu te dis pourquoi on le fait pas en vrai, quoi. Et donc avec l'Universal Japan, le parc d'attractions Super Nintendo World qui devrait ouvrir rapidement, bientôt, si le coronavirus ne vient pas y mettre son grain de sel. Mais c'est vrai que Nintendo est en train de se diversifier, donc ils vont avoir des sources de revenus qui vont peut-être lui permettre de s'évader du carcan du jeu vidéo pur et dur. Il faudra continuer, parce que c'est effectivement grâce à ça que les licences se développent. Mais est-ce qu'ils continueront à faire du hardware ou est-ce qu'ils vont se contenter finalement d'utiliser des plateformes de cloud et simplement vendre une manette, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Mmh. C'est honnêtement, moi, je ne pense pas que ce soit totalement improbable. C'est même probable, mais dans quelle mesure, j'en sais rien. Il y a encore 3-4 ans, tout le monde disait que les consoles de salon c'était fini et qu'après la PS4, il n'y aurait plus rien. Ben, on se rend compte que finalement, le cloud, c'est pas encore dans nos salons, on va dire, hein. Mmh. Et qu'on a encore besoin d'une console. La PS5 se présente, la Switch cartonne du feu de Dieu. Bon, eh ben, ceux qui prédisaient l'arrivée du cloud partout et tueraient toutes les consoles se sont trompés. C'est difficile de prévoir l'avenir, on le sait pas.
Mmh. Sage réponse. Est-ce que tu aurais un reproche que tu peux dire sur Nintendo ?
Un reproche ? Ça dépend à quel niveau. En tant qu'historien du jeu vidéo, oui, j'aimerais bien qu'ils ouvrent leurs archives plus facilement aux chercheurs, mais ça, voilà, c'est un truc qui n'intéresse que 10 personnes dans le monde. Après, un reproche d'un point de vue ludique, quand on voit leurs résultats, il faudrait être quand même assez présomptueux pour leur faire des reproches et leur dire qu'ils sont nuls, parce que c'est quand même pas le cas. Ils ont fait des erreurs dans leur histoire, mais encore une fois, c'est toujours facile d'être l'inspecteur des travaux finis en disant bah ouais votre Virtual Boy c'était de la merde. Non, enfin à l'époque ils ont parié dessus, ils auraient très bien pu marcher. C'est une question de timing. Enfin il y a plein de choses qui c'est facile on va dire de faire des reproches à posteriori et de jouer les inspecteurs des travaux finis. Mais quand on est en interne, peut-être qu'on se dit c'est la meilleure idée du monde, on y croit à fond et effectivement quand ça sort au final, bon bah il y a des tas de raisons qui expliquent les succès, les échecs, et même dans les succès à Nintendo, il y a plein de choses auxquelles ils croyaient pas forcément. La preuve, c'est Pokémon, hein. Personne n'y croyait, à part deux ou trois forcenés, et au final, bon, bah, ça cartonne. Donc, j'ai pas vraiment de reproche hein, d'un point de vue industriel et ludique à faire à Nintendo. Ce serait quand même très présomptueux de ma part, et moi, j'ai horreur de ça. Ça ferait un peu inspecteur des travaux finis.
Voilà une réponse encore une fois pleine de sagesse et tout en retenue. Florent Gorge, merci beaucoup. Tu donc as sorti le 4e tome de l'histoire de Nintendo dans les éditions que tu gères et que tu as construites donc Omake Books. Oui. Mille merci.
Sans prix.
Bah, au plaisir.
Merci beaucoup.